8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, gros plan sur la société turque à l'heure des élections. Vous le savez, le rendez-vous capital des Turcs dans les urnes ce dimanche est largement relayé par la rédaction de RFI, avec des éditions spéciales, des reportages, des articles aussi à retrouver sur RFI.fr. Et chez 8 milliards de voisins, émission de société, eh bien, on a eu envie de mieux comprendre où en est exactement la vie quotidienne des Turcs dans cette société dirigée depuis 20 ans par Tayyip Erdogan. À quoi rêvent les jeunes dans des universités victimes de purges? Quels droits pour les femmes? Quelle place pour la religion? Comment s'en sortent les familles avec l'inflation? Comment est vécu au quotidien l'affaissement économique à l'image du séisme du 6 février dernier qui a fait près de 50 000 morts et énormément de disparus inconnus? Et puis l'affairisme des plus riches, pro-Erdogan, notamment dans le bâtiment travaux publics. Et dans cette société urbanisée à près de 80%, souvent décrite comme épuisée, quelle vie pour les minorités kurdes qui ont vécu encore plus dramatiquement le revirement d'Erdogan à leur encontre? Je vous présente nos invités. Ahmet İnsel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RFI. Vous êtes politologue, économiste turc. Vous avez longtemps enseigné dans la célèbre université Galatasaray d'Istanbul. Vous avez publié en 2017 « La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire » aux éditions La Découverte. Nous sommes également en liaison avec Delphine Minoui. Bonjour.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Merci d'être en direct avec nous d'Istanbul. Vous êtes grand reporter, correspondante donc à Istanbul pour le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Et vous venez de publier un très beau roman poétique, extrêmement instructif aussi, L'alphabet du silence, aux éditions de l'Iconoclaste, et qui raconte justement l'arrestation de milliers de professeurs en 2016 et comment ça a vraiment été une déflagration au-delà des milieux intellectuels. On va bien sûr en reparler. Également avec nous İşil Erdinç. Bonjour.
Bonjour.
İşil, vous êtes enseignante chercheuse en sciences sociales et sciences du travail à l'Université libre de Bruxelles et à l'EHESS en France. Merci d'être en liaison avec nous.
Merci.
8 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Et bonjour.
Nous sommes là, nous sommes ensemble.
Et allô?
Milliards de voisins, on est ensemble.
Ahmet İnsel, les jeunes et les Kurdes, quand on entend les analystes, constituent les points centraux de cette élection, dont l'issue est très incertaine. Alors, où en est la jeunesse qui, d'un point de vue démographique, représente près d'un quart de l'électorat, en quelques mots?
D'abord, dans les jeunes, il y a un sous-secteur qui est intéressant, c'est les primo-votants. Qui représentent presque 5-6 millions d'électeurs. Et sur ces primo-votants, les instituts de sondage nous donnent une forte préférence pour le candidat d'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Et les jeunes en général, si on prend la catégorie plus large que vous avez citée, on retrouve aussi une préférence pour l'élection présidentielle pour le candidat de l'opposition. Il est vrai que pour la grande majorité des jeunes, notamment ceux qui ont moins de 25 ans, Tayyip Erdogan représente celui qui était tout le temps au pouvoir. Ils ont connu que ça. C'est un peu la réaction de mai 68 vis-à-vis de De Gaulle, si vous voulez. Et en même temps, non seulement Tayyip Erdogan est toujours là, mais on a vu ça durant les événements Gezi en 2013. Il a un peu l'image, pour une partie de la jeunesse évidemment, l'image du père fouettard, c'est-à-dire qui intervient tout le temps. Ne fumez pas de cigarettes, pas d'alcool, ne mettez pas des jupes courtes, etc., etc. Sur l'ensemble, il est très intrusif, dans la vie sociale. Et donc, du coup, il y a une réaction. Et puis, effectivement, ces jeunes, dans leur réaction anti-Erdogan, expriment aussi une demande de liberté, de parole, d'organisation, d'expression et de liberté, de mode de vie.
D'autant plus que cette jeunesse, İşil Erdinç, est une jeunesse très urbanisée, très connectée, qui veut vivre comme elle l'entend. Ça peut créer une vraie rupture générationnelle, y compris à l'intérieur même des familles.
Oui, justement. Là, surtout, comme en fait, il s'agit quand même d'une génération qui est assez instruite aussi, assez instruite. Donc même si, comme un médecin disait, donc ils ont, il y a quand même des, les primo-votants n'ont vu que Tayyip Erdogan comme, comme gouvernement, comme président et comme premier ministre. Mais là, en fait, en tout cas, de ce qu'on voit chez les jeunes aujourd'hui, c'est que par exemple, au sein de, des familles, les jeunes qui, dont les parents votent AKP, par exemple, et les jeunes, leurs enfants, donc, ne vont pas voter AKP. Ils déclarent de soit voter pour le troisième candidat, Muharrem İnce, ou de voter à gauche même. Et donc, il y a quand même surtout il y a des différences générationnelles. Donc, les jeunes ne veulent plus, surtout en fait, à cause des questions économiques, des difficultés économiques et de l'incertitude de leur futur. Ils ne sont pas de même borne, de la même borne politique que leurs parents.
AKP, donc le parti au pouvoir. Delphine Minoui, pour comprendre la Turquie d'aujourd'hui, dont on le disait, donc on a un quart de l'électorat, sont des jeunes, mais en fait la moitié de la population a moins de 40 ans. Hein. Pour comprendre cette Turquie d'aujourd'hui à la veille des élections, vous revenez dans votre roman L'alphabet du silence, 7 ans en arrière, 15 juillet 2016, c'est le coup d'État raté contre Erdogan, ça on en parle beaucoup, on y revient beaucoup. Mais vous racontez l'histoire d'un, si je puis dire, d'un banal professeur d'université, marié, père d'une petite fille, qui se retrouve licencié, jeté en prison, mis à l'isolement. Pourquoi vous avez voulu revenir sur ces purges universitaires ?
J'ai voulu m'accaparer de cette histoire parce que, pour moi, elle résume la dérive autoritaire d'Erdogan de ces dernières années et elle résume aussi tout le caractère arbitraire du système juridique turc. Ses profs, comme mon personnage principal Goktay dans le roman, ils décident en fait à l'époque de signer une pétition pour la paix. Une pétition qui dit « nous ne serons pas complices de ce crime » et cette pétition elle fait référence à l'époque aux frappes de l'armée turque contre de nombreuses villes et de nombreux villages kurdes du sud-est. Et là nous sommes en janvier 2016. Il faut savoir qu'à l'époque donc le processus de paix avec la guérilla du PKK avait été lancé, il vole à ce moment-là en éclat. Et là, Erdogan, au lieu d'écouter cet appel à la paix, il décide de diaboliser ses enseignants. Il les accuse de soutenir le terrorisme, et c'est toute l'absurdité. Et certains sont arrêtés, d'autres sont limogés. Et en fait, quelques mois plus tard, quand il y a le putsch raté de 2016, les autorités en profitent pour poursuivre leur grand nettoyage et pour purger pas des centaines d'enseignants, mais des milliers d'enseignants à travers le pays.
Ahmet İnsel, ces enseignants, vous-même, d'ailleurs, à l'époque, vous avez signé cette fameuse pétition pour la paix.
On était 1180, je crois, signataires, dans la première version. Et puis, il y a eu 1000 autres signataires solidaires.
Il faut rappeler qu'à l'époque où Erdogan arrive au pouvoir, au contraire, il veut faire la paix avec les Kurdes.
Quand, surtout à partir des années 2005-2006, il commence à entamer un certain dialogue avec les Kurdes, dont le sommet sera entre 2009 et 2013. Et à partir du moment où il comprend que le dialogue avec les Kurdes jusqu'en 2014, il croit que ça va lui apporter le soutien des Kurdes. Or, les
Kurdes... 2015, c'est un peu la douche froide.
Voilà. En 2015, c'est tout à fait aux élections législatives, c'est la douche froide. Et à partir de... Même quelques mois avant les élections législatives, il voit venir les choses et il freine de quatre mains le processus qu'il a mis en place. Il accuse même qu'on a mis des choses en place à son insu, ce qui est un mensonge absolu. Et et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2015, Tayyip Erdogan n'a plus la majorité seule au Parlement et pour être élu président de la République. Donc, du coup, il va s'allier avec l'extrême droite nationaliste qui est très anti-Kurde. Alors, les Kurdes représentent...
Pour bloquer, finalement, la percée du HDP, le parti kurde.
Le parti pro-kurde qui a aussi le soutien d'une partie de la gauche turque, c'est un parti qui veut devenir un parti de la Turquie, pas simplement le parti pro-kurde, simplement le parti démocratique des peuples. Et ils ont obtenu en 2015 13% de voix, ce qui avait coûté la majorité parlementaire dans un premier temps à l'AKP. Et aux élections suivantes, toujours 11-12%. Et il a présenté des candidats deux fois à l'élection présidentielle. C'est la Selahattin Demirtas qui a eu 8%, 9% en 2014-2018. Et depuis 2016, Selahattin Demirtas est en prison avec la coprésidente de ce parti, Figen Yüksekdağ. Les Kurdes représentent à peu près 15-18 millions de personnes sur une 85 millions d'habitants de Turquie, ils sont très politisés et le vote des Kurdes, dans sa grande majorité, est évidemment très important pour décider qui va devenir président au premier ou deuxième tour.
Delphine Minoui, que sont devenus ces milliers d'enseignants victimes de purges, hein, parce qu'ils perdent tout en fait, hein, dans le roman L'alphabet du silence, mais également dans la réalité. Ces enseignants d'université, et pas seulement, ils perdent leur boulot, ils perdent leur retraite, ils perdent la sécurité sociale, exactement, hein, la mutuelle de santé. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ensuite ?
C'était très difficile pour eux parce qu'ils sont devenus véritablement des parias de la société pour avoir été étiquetés comme ironiquement des criminels, j'appelle ça des criminels de paix. Alors ils ont été victimes de poursuites judiciaires, ils ont des procès qui se sont déroulés dans l'enceinte du grand tribunal de Jalayan à Istanbul. Et ils ont finalement été acquittés. En 2019, mais ils n'ont pas pour autant été réintégrés à leur poste.
Donc c'est toute une génération de professeurs déclassés socialement, finalement.
Complètement, qui, pour survivre, vendent des châtaignes dans la rue, des livres au marché noir. Certains ont ouvert des cafés. Ils essayent de vivoter comme ils le peuvent, parce qu'il faut savoir que pour certains, ils ont même essayé de trouver d'autres boulots, mais on leur refusait. On ne les embauchait pas parce qu'ils ont été littéralement stigmatisés par le pouvoir. Et l'impact a été colossal sur les universités parce que vous avez des facultés qui se sont retrouvées vidées de leurs meilleurs professeurs et surtout vidées d'une certaine catégorie d'enseignants. C'est-à-dire, c'était pour beaucoup des enseignants qui défendaient l'idée de la pluralité, qui s'intéressaient aux minorités, qui, en plus de leurs cours, animaient des ateliers, des ciné-clubs, où toutes les questions qui aujourd'hui fâchent le président Erdogan étaient librement évoquées. La question des femmes, la question des LGBT, la question de la minorité à Lévis, la question des Kurdes. Tout ceci, malheureusement, a de moins en moins lieu d'être aujourd'hui dans l'enceinte des universités turques. Et en parallèle, parce qu'il faut savoir qu'au-delà de ces professeurs d'université, après le coup d'État, vous avez également beaucoup d'enseignants dans les écoles et les lycées qui ont été purgés. Et du coup, le niveau s'en est ressenti vraiment appauvri au profit d'une éducation plus conforme aux valeurs qui sont prônées par Erdogan, c'est-à-dire la famille, la patrie, et cette idée d'une identité musulmane sunnite qui fait abstraction des autres sectes et des autres minorités religieuses du pays.
On peut parler d'une reprise en main de l'école islamo-nationaliste, Ahmet İnsel ?
Oui, tout à fait. L'éducation nationale, d'ailleurs, a une activité très significative. De plus en plus, depuis 10 ans maintenant, l'éducation nationale signe des accords avec la direction des affaires religieuses, la Diyanet, qui est un peu l'organisation administrative de culte sunnite en Turquie, avec ses 110-120 000 imams fonctionnaires. Et Diyanet intervient de plus en plus, la direction des affaires religieuses intervient de plus en plus dans les programmes scolaires, soit pour assurer des cours entre guillemets optionnels de Coran, de la vie de Mohammed, etc., ou pour organiser des séjours à l'extérieur d'activités scolaires des écoles. Et en même temps, n'oublions pas que le nombre d'écoles d'imams et de prédicateurs a aussi considérablement augmenté. Et donc, des deux côtés, il y a une reprise en main, une sorte d'embrigadement idéologique nationaliste islamiste. Ce n'est pas que nationaliste, il y a aussi embrigadement nationaliste et islamiste qui fait un tout, une sorte de synthèse turco-islamiste, comme on disait.
Donc, ça n'est pas une histoire qui se passe uniquement dans l'élite d'Istanbul.
Non.
Delphine Minoui, quand ce professeur qui est le héros de votre roman est totalement placé à l'isolement, il se met à dessiner quand il est en prison, sa femme va elle aussi décider de résister par tous les moyens alors qu'elle n'était plus vraiment politisée. On est dans cette génération de trentenaires, de quarantenaires qui finalement n'a pas connu beaucoup d'autres choses que Erdogan. Est-ce que cette résistance aujourd'hui, elle porte donc bien au-delà des élites intellectuelles ?
Ben c'est ça qui m'a marqué, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur le personnage de l'épouse qui, elle, n'était pas engagée comme son mari. mais qui a toujours fui la politique, mais qui justement, par la force du destin, face à un pouvoir qui stigmatise, qui criminalise, qui diabolise en permanence, eh bien, elle s'est retrouvée, moi, ce que j'appelle embarquée, c'est-à-dire malgré elle, elle devient cette femme engagée qu'elle n'aurait jamais imaginé être. Et grâce à elle, on découvre tout un réseau, tout un tissu de solidarité à travers le pays. Elle décide de faire la tournée de la Turquie, et elle découvre, et ça c'est ma fiction est beaucoup inspirée de la réalité d'aujourd'hui, elle découvre toute une série d'universités parallèles, d'universités plus ou moins clandestines, qui ont été fondées par des professeurs purgés à Eskişehir, à Ankara, à Mersin, à Köcheli, dans des sous-sols de café, dans des supérettes transformées en centres culturels. Et au-delà de ça, il y a aussi le fameux syndicat Eğitimsel, un syndicat de gauche qui a beaucoup contribué aussi à soutenir les professeurs en leur donnant une sorte de petite pension pour compenser l'absence de salaire. À côté de ça, il y a eu aussi des concerts qui se sont organisés devant la grande prison de Silivri à côté d'Istanbul. Il y a des profs qui ont même monté une pièce de théâtre inspirée d'une nouvelle inachevée de Dostoïevski qui s'appelle Le Crocodile et qui fait écho quelque part à la situation de ces profs, parce que c'est l'histoire d'une femme qui va rendre visite à son mari et qui tombe dans... c'est son mari qui tombe dans le museau, dans la gueule du crocodile. Et elle va tout faire. Elle va déployer mille et un efforts pour essayer de le libérer. Et donc, ça nous montre aussi cette dynamique, cette résistance et cette résilience aujourd'hui de la société civile qui s'exprime encore aujourd'hui à ce jour à travers aussi beaucoup de jeunes, également beaucoup de femmes, dans cette volonté de préserver les urnes à l'approche d'une élection cruciale qui va avoir lieu le 14 mai.
Alors justement, il faut qu'on parle des femmes avec vous, Işıl Erdinç, parce que Ahmet İnsel le disait, le niveau d'éducation, le système éducatif, c'est largement, on va dire... Oui, vous faites le geste d'ailleurs de l'effondrement. Les femmes constituent la moitié de l'électorat. En 2021, la Turquie se retire de la Convention d'Istanbul sous prétexte que le traité international contre la violence faite aux femmes encourage l'homosexualité. Dans les faits, qu'est-ce que ça change vraiment dans les foyers? C'est un texte finalement. Dans les foyers où les femmes vivent la violence au quotidien, Işıl Erdinç.
Oui. En fait, sur le système, si je reprends le début de votre question sur le système de l'éducation, ben normalement, les réformes dans le système de l'éducation ont eu également des effets parce que ces coupures, il y a eu un nouveau système de quatre premières années de l'éducation qui est obligatoire et ensuite, au-delà, il est devenu pas obligatoire. Et donc, finalement, il y a eu un effet des jeunes filles, surtout, en fait, qui sont en quatrième année de leur éducation primaire, qui ont ensuite quitté l'école, et donc on voit quand même un taux de mariage enfant à l'âge d'enfant et qui est une croissance, et donc ça joue un rôle notamment dans la question de bien sûr d'éducation des filles et ensuite de violence aussi faite aux femmes finalement, et donc un premier aspect c'était surtout pour la question de mariage des filles, et ensuite deuxième aspect bien sûr c'est surtout cette sortie de la Convention d'Istanbul a joué un rôle, surtout dans le mouvement féministe en Turquie, c'est toujours un mouvement assez important et donc assez fort. Et donc cette sortie a fait quand même beaucoup d'écho. Et au 8 mars, surtout, en fait, il y avait également des protestations assez fortes et influentes.
Y compris, en tout cas, ça a fait débat au sein même de l'AKP, le parti au pouvoir.
Oui, bien sûr. Et là, surtout, en fait, il y a quand même des sondages récents qui estiment, par exemple, qu'il y aurait peut-être un glissement de vote des femmes de l'AKP vers peut-être d'autres partis politiques ou parce qu'en fait, à cause de cette situation de précarité, de violence faite aux femmes, mais aussi parfois, en fait, on voit également comme la question de voile, c'était une des questions importantes et centrales au début du gouvernement AKP. Et donc, maintenant, il y a question de cette instrumentalisation de la religion, de la question du voile pour obtenir le pouvoir, ça commence aussi à gêner un peu même les femmes qui sont pro-AKP.
Oui. Et en même temps, comment cet électorat islamo-nationaliste, islamo-conservateur des femmes qui sont donc certaines se proclament féministes, qu'elles soient voilées ou non voilées, mais là je parle plutôt de ces femmes qui sont voilées, quand on voit que les plus grands médias, les grandes chaînes de télévision qui sont proches du gouvernement diffusent les meetings du président en permanence, qu'est-ce qui fait que cet électorat-là conservateur se met à réfléchir, sachant que vous sembliez dire, Ishil Erdinç, que l'éducation pour les filles, en tout cas, a été un petit peu mise à mal ces dernières années, Ahmet İnsel?
Alors, c'est, d'abord, il y a les réseaux sociaux qui jouent beaucoup. Tayyip Erdoğan et l'AKP saturent la télévision publique par sa présence. Hein, c'est incomparable. L'opposition, s'il a une heure de présence, Tayyip Erdoğan a 60 ou 70 heures de présence. Mais en même temps, c'est une présence saturante. Autrement dit, il devient inaudible. Donc du coup, le recours vers les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes et chez les jeunes femmes, est très, très important. D'ailleurs, c'est pourquoi Tayyip Erdoğan et l'AKP essayent actuellement d'introduire aussi la censure dans les réseaux sociaux et pas simplement dans la presse. Et il y a eu un débat très important, une remise en cause par quelques députés femmes de l'AKP sur ce discours qui minimise la violence faite aux femmes. Et malheureusement, elle a été totalement lynchée verbalement par les machistes ou par les hommes de l'AKP, et cette femme a été, et quelques-uns avec elle, a été un peu isolée. Mais en même temps, elle représente aussi une sensibilité féministe. Et cette sensibilité féministe, on la sent indirectement dans les réactions des réseaux sociaux chez les jeunes femmes qui étaient acquises à l'AKP jusque-là, sont en train de remettre en cause. Cela ne veut pas dire qu'ils...
Des femmes qui d'ailleurs devaient à Erdoğan le droit de la liberté de se voiler à l'université, alors qu'avant c'était interdit.
Exactement. Hein. C'était à partir
donc elles lui doivent 2010. Quand même pas mal.
Ils doivent, mais en même temps c'est un acquis maintenant, puisque l'opposition ne demande pas le retour de l'interdiction de voile à l'université. Ce qui a fait l'intelligence de Kılıçdaroğlu, ce n'est plus un enjeu. Et il a donné les garanties qu'on ne reviendra pas à l'ancien. Et donc, il y a une réaction chez les jeunes femmes, en partie chez les jeunes femmes, une réaction pour demander effectivement la reconnaissance de l'exigence de liberté. Et malheureusement pour AKP, il s'est allié avec une petite partie islamiste très radicale. Et non seulement ils sont totalement contre le retour à la Convention d'Istanbul, ils veulent même abroger la loi interne en Turquie qui pénalise la violence faite aux femmes. Donc là, effectivement, la réaction est encore plus forte.
Y compris au sein de l'AKP.
Au sein de l'AKP, oui.
L'AKP qui mène une énorme campagne anti-LGBT. Toute l'opposition est régulièrement accusée d'être pro-LGBT, donc de favoriser l'homosexualité notamment, de risquer de ruiner le modèle familial en Turquie. Pourquoi, selon vous, en quelques mots, Ishil Erdinç, des sujets de société, voire d'intimité sexuelle, sont devenus d'énormes sujets politiques? Est-ce que c'est pour faire oublier la corruption, la mauvaise gestion économique?
C'est, à mon avis, c'est un lien avec la question précédente, parce que il y a plus, en fait, l'AKP s'est éloigné un peu de son discours pour les femmes, pour les représenter les femmes, pour avoir des femmes voilées plus vives dans la société ou dans la politique. Et plus il commence à mettre l'accent sur les politiques familiales, sur la famille, sur l'importance de la famille, les enfants, la reproduction. Et donc, LGBTI, pour eux, c'est comme si on porte atteinte à l'unité nationale, au futur de la nation. Comme il n'y a pas un système de reproduction, il n'y aura pas d'enfants, donc il n'y aura pas la famille sera donc endommagée par ça, influencée par ça. Et donc, il y a quand même ça. Donc, c'est vrai que l'accent mis sur les politiques familiales et sur l'importance de la famille comme le cœur de la Turquie, de la société turque, fait que les individus LGBTI et les mobilisations LGBTI, etc., soient donc discriminés et soient criminalisés et stigmatisés.
Vous restez avec nous chez 8 milliards de voisins. On se retrouve juste après un rappeur turc d'Antalya, Ezel. Cette chanson, c'est pas son plus gros tube, mais 12 millions d'écoute sur Spotify, quand même.
Böyle kim düşman kim dost, fısıldı fiskos, intelligentsia peşte, soruyor infos, Berlin, Zürich, Budapest, şarkım ilk beşte, üzülüp demeyiz keşke, yaparız beste, çıkıyor ahıma heste, yatım kafeste, laf ettim o kadar ne oldu, rapler yazdım arabeske, içeriz viski, içeriz tiski, buz olur kafa kadehte, girerim yatağa sekse, her iki sabaha dekse, dediklerim bir kez sekse er geç oluyor gerçek. Boşuna ortamı germek yapmayacak seni bir erkek. Durma boş ortamı terk et, biz elmasla sense berçet. Bırak zalim kalsın zalime, o da bir gün geber. Kaşa dom dom kurşunu bok şat çat pat, yem olur avcı biz avsak edemem. Kula kulluk ya da şak şak tapmam, hür yaşamak bütün maksat. Kaşım gözüm göğsümde mürekkep, tek tek destan olur kaba taslak. Dededen bu müzik bana meslek, konuşun siz masal anlatın ancak. Gel bana çay koy siki tut çek, grup illavım pilavım kurudur grup impact. Sularım durulur vurur impact, yapamam kardeş bu biçim rap. Kazıdığım tırnak yararım ırmak, sarılır kızlar tatlışlar. Uyuzum hırslan alkışlar, buyurun bilmiyorsan. Sansor beni sokaklara elbet bilir beni Kulupak'ta bir bank kimseler bilmez neler çektim bilir bir tek Kulupak'taki bank bilmiyor sansor beni sokaklara bilir Kulupak'taki bank kimseler bilmez neler çektim bilir bir tek Kulupak'taki bank hey. Euro ile dolara bankam oluruz Rico ile ben yeni Cankan Paparoz Amsterdam'dan yok yetişemeyeceğim bir klasman Gurbet el evde plasman gideriz Gülizar Parkı'nı Espan Resmen en has derman gıcık ol veremem bir türlü esrar dosyası gibi zıp zıp hadi zıpla derdinin yok yeri tıpta ha? Bitti dövizler kripto yollarım hem de bir tıkla ha? Dion hep karşıma çıkma çıkınca isteme selfie Veririz sisteme dersiysen peki pislemesen mi? Ha? Lamazlı lavuklar bedavaya gider koalse namalup Hepsi hayvandan daha malukat yapıp yerim seni lahmacun Bu iş benim bunu bırakmam ki sen öğreteyim diye yalvardır Kafa hepsinden daha farklı Bilmiyorsan sor beni sokaklara elbet bilir beni Kulupak'ta bir bank kimseler bilmez neler çektim bilir bir tek Kulupak'taki bank bilmiyorsan sor beni sokaklara bilir Kulupak'taki bank kimseler bilmez neler çektim bilir bir tek Kulupak'taki bank
Vous écoutez 8 milliards de voisins chez RFI. On est en direct à 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, gros plan sur la société turque à l'heure des élections. On s'interroge sur l'état de la société turque, une société que l'on dit épuisée depuis des années. À quoi rêvent les jeunes dans les universités? Quels droits pour les femmes aussi? Et surtout, comment s'en sortent les familles aujourd'hui avec l'inflation? En un an, les prix auraient grimpé de plus de 60% en Turquie, selon les chiffres officiels, mais on parle plutôt de 110% selon des chiffres indépendants. Delphine Minoui, vous êtes grand reporter pour Le Figaro, spécialiste, vous êtes correspondante à Istanbul et spécialiste du Moyen-Orient. Vous venez d'ailleurs de publier L'Alphabet du silence, un roman qui revient sur les purges universitaires des enseignants dans les années 2016. Aujourd'hui, vous habitez à Istanbul et vous voyez la valse des prix en direct.
C'est flagrant et on a du mal à comprendre comment les gens arrivent à s'en sortir. Quand vous allez au supermarché pour faire des courses, vous voyez les personnes qui, vous voyez, c'est aux fruits ou aux légumes près. Ils comparent en permanence les prix, ils vérifient les étiquettes, des étiquettes d'ailleurs qui n'arrêtent pas de changer. Quelque chose qui me marque beaucoup, c'est ces queues qu'on voit régulièrement devant ces stands de pain subventionné à tarifs réduits qui ont toujours existé. Mais en général, c'était plutôt des gens issus de milieux défavorisés qui faisaient la queue. Là, vous retrouvez vraiment des gens de la classe moyenne parce qu'ils vous disent que même acheter une baguette, c'est devenu difficile. Et on sent une grande colère, un grand désarroi, une grande colère dans la société, notamment chez les jeunes qui doivent aussi cumuler des petits boulots pour
payer leurs études,
pour se payer leur transport en commun. Et pour revenir sur la génération, les enfants de la génération Erdogan, les enfants de l'AKP dont on parlait tout à l'heure, ce qui est flagrant, c'est pourquoi ces gens-là vont aussi décider de voter pour l'opposition. C'est parce qu'ils vous disent que, en fait, ils ont tous en commun de dénoncer ce qu'ils appellent l'hypocrisie, la cupidité du président Erdogan, qui d'un côté prêche la modestie religieuse, mais qui d'un autre côté, il faut le rappeler, s'est quand même fait construire un palais à 400 millions d'euros, et pendant que son épouse, régulièrement sur les photos, se pavane en sa kermesse. Donc ce contraste, il est flagrant, et il accentue encore plus le désarroi de la population.
Ahmet Insel, les inégalités ont profondément augmenté, alors que les salaires sont aussi régulièrement réévalués. Le président Erdogan a annoncé hier qu'il allait augmenter les salaires du secteur public de près de 45%. Tout ça n'est pas suffisant.
Non, puisque l'inflation est beaucoup plus élevée, puisque officiellement l'inflation l'année dernière était 80%, cette année c'est un peu moins, mais officieusement ça dépasse 100%. Et l'inflation dont parle Delphine tout à l'heure, c'est-à-dire des prix alimentaires, c'est encore plus élevé. Dans certains cas, ça dépasse 150%. Et en plus, il faut voir que les salaires minimums ont été augmentés à peu près au niveau du taux d'inflation officiel et non pas du taux d'inflation officieux, évidemment, mais les salaires du secteur privé, les salaires moyens n'ont pas augmenté, évidemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le salaire minimum en Turquie s'est approché à 70% du salaire moyen. Autrement dit, c'est le salaire moyen qui a énormément perdu du pouvoir d'achat. Et c'est, tout à l'heure, Delphine disait, la classe moyenne. C'est l'effondrement au niveau de la classe moyenne. D'ailleurs, on voit cet effondrement au niveau de la classe moyenne dans les secteurs urbains particulièrement, où ils sont plus fragiles parce qu'il n'y a pas l'économie familiale qui peut supporter pour l'alimentaire, l'économie domestique. Et là, il y a une perte de pouvoir, une perte d'attirance pour AKP. Mais il faut aussi relativiser les choses parce que il y a effectivement encore une électorat urbaine ou provincial, un électorat qui, malgré cet effondrement économique, continuera à voter pour Tayyip Erdogan. Et ils disent
en remerciement de cette économie populiste qui fait des distributions de nourriture, etc.
D'abord, il y a ça. Il y a une économie populiste. Alors, le summum de l'économie populiste, l'exemple, c'est Tayyip Erdogan. Il y a quelques semaines, quand il y a eu la mise en scène d'une découverte de gaz naturel dans la offshore de la mer Noire, il a annoncé la Turquie devient indépendante, etc. Et il a dit: pendant le mois de mai, le gaz urbain chez les ménages vont être gratuits. Ça dépasse l'imagination comme proposition, évidemment.
Ouais, d'autant plus que pendant l'hiver, il y a eu des manifestations contre le prix de l'électricité. Et du gaz, qui ont été organisées dans certaines villes. Et il y a même des gens qui avaient arrêté de payer leur abonnement de gaz parce qu'ils n'arrivaient pas à payer la facture, tout simplement, et qui revenaient à se chauffer au charbon.
Oui, à se chauffer au charbon ou au bois. Et d'ailleurs, Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat de l'opposition, par solidarité avec cette population, a refusé de payer son électricité et quelques jours, son électricité a été coupée chez lui. L'inégalité en termes de mesures s'est dégradée parce que nous avons un indicateur, les économistes, nous avons un indicateur qui est le coefficient du Gini. Et cet indicateur de répartition des revenus s'est dégradé de plusieurs points. En France, c'est 0,32 pour aller vite. En Turquie, c'est plus que 0,40. Donc, l'écart est très important. Et nous avons retrouvé la dynamique des inégalités de la période hyperinflationniste des années 90.
Et pourtant, cette classe moyenne dont le niveau de vie s'est littéralement effondré, elle avait profité lors de l'arrivée d'Erdogan de la prodigieuse ascension de l'AKP avec l'essor d'une nouvelle élite entrepreneuriale. Là, il y avait une richesse qui avait tout de même ruisseler jusqu'aux classes moyennes. Quelle est la place du foncier, de l'immobilier et donc du BTP dans la progression de cette élite nationaliste, conservatrice et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, quelques mois après le séisme?
Il y a trois choses à la fois. D'un côté, il y a tout le soutien au secteur BTP, bâtiments et travaux publics, par les fonds publics et en dépit des règles de la concurrence par attribution directe qui sont vraiment des relations clientélistes au niveau d'une dizaine d'entreprises, dont cinq, nous les appelons la bande des cinq, les plus gros, qui raflent à peu près 80% des marchés publics en Turquie, des grands marchés publics en Turquie. Et ils construisent les barrages, les autoroutes, les aéroports, etc. Et ils sont très proches de Tayyip Erdogan. Deuxième niveau, c'est l'autorisation faite systématiquement par des amnisties régulières, les autorisations d'amnistier les bâtiments qui ont été construits en dépit du bon sens sur des zones de tremblement de terre, sur des failles de tremblement de terre, et qui permet aux habitants de bénéficier d'une rente urbaine, d'une certaine manière.
Donc, régularisation de construction illégale. Ça, on en a beaucoup parlé après le séisme.
Ce qui s'est effondré durant le séisme de 6 février, les deux séismes de 6 février, ce sont en grande partie ces bâtiments. Mais en même temps, ces régularisations créent en même temps des réseaux de financement occultes, ou des financements directs des municipalités, ou pour fermer les yeux, les autorités locales bénéficient évidemment des pourboires, des bakchiches, etc.
Donc, blanchiment d'argent, ce qui dégrade encore un peu plus l'image de la Turquie pour les investisseurs internationaux.
Pour le blanchiment d'argent, c'est encore plus grave parce que la Turquie est classée dans la zone grise, dans les pays gris sur les blanchiments d'argent.
Ce n'était pas du tout le cas autrefois.
Ce n'était pas le cas. Si vous amenez en Turquie de l'argent de l'étranger, on ne vous demande pas l'origine des ressources. Et donc, le déficit de la balance commerciale de la Turquie, qui est abyssale, est en partie financé par les arrivées des capitaux à but de blanchiment d'argent.
Delphine Minoui, 80% de la population vit en ville. Et d'ailleurs, on voit bien les dégâts que ça a provoqués avec les séismes dans le sud-est du pays. Plus de 50 000 morts, un nombre de disparus non communiqués. Qu'est-ce que le tremblement de terre a révélé sur cette société très urbanisée pour vous, Delphine Minoui?
Dans sa politique, le président Erdogan a toujours aussi mis l'accent sur l'ascension sociale, c'est-à-dire la possibilité pour n'importe quel Turc de devenir un petit propriétaire. Donc il y a eu aussi tous ces crédits avantageux pour acheter des appartements, pour se faire construire des maisons, et ça a généré en effet une bétonisation excessive, une urbanisation galopante. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de Turcs en reviennent parce qu'ils nous disent « voilà, on nous a construit du rêve, on y a cru ». Mais en fait, on réalise qu'on a acheté nos propres tombeaux. Donc l'addition est salée. Elle est très, très difficile à digérer pour une grande partie des Turcs. Et finalement aussi, esthétiquement, pour vous donner un peu une image de ce qu'on voit aujourd'hui en Turquie, quand vous prenez la voiture et que vous traversez des villes, des villages, vous avez l'impression parfois de villes clonées. C'est-à-dire que chaque ville... Les villes se ressemblent énormément. Il n'y a plus vraiment d'âme, en tout cas dans les nouvelles villes modernes et les villages modernes. C'est-à-dire que vous avez systématiquement la mosquée, le centre commercial, et puis un tout petit peu plus loin, l'espèce de cité dortoir où les habitations s'empilent comme des blocs de Lego.
C'est intéressant votre description, Delphine Minoui, parce que finalement, on a l'impression d'une fonte de l'identité culturelle, d'un écroulement de l'identité culturelle à travers cette laideur de l'urbanisation et d'un modèle qui se reproduit partout sans tenir compte des spécificités régionales, alors que Erdogan, au contraire, prône la survie d'un modèle culturel.
C'est toute la complexité du personnage, c'est difficile de se mettre dans sa tête, mais d'un côté, il y a quand même l'obsession néo-ottomane avec cette volonté de marquer son territoire, entre guillemets, de réislamiser la société. On l'a vu avec le symbole de la basilique Sainte-Sophie qui a été reconvertie en mosquée. Et puis, sa volonté à lui de faire édifier d'énormes édifices religieux. Je pense à cette énorme mosquée qui a poussé sur la place Taksim, la place centrale. centrale d'Istanbul depuis que je suis arrivée en Turquie. De l'autre côté, sur la rive asiatique, vous avez également une autre mosquée énorme, démesurée, qui a été érigée sur une des dernières collines verdoyantes de la ville. Et de l'autre côté, il y a quand même aussi cette dimension de l'économie néolibérale avec toute cette modernisation à outrance, ces shopping malls qui font énormément penser à Dubaï et à toutes les monarchies du Golfe. Donc c'est ça aujourd'hui aussi la Turquie d'Erdogan.
Ouais, une Turquie d'Erdogan, ceci dit, qui a pendant longtemps aussi fourni avec ses usines la société de consommation en Europe. Il ne faut pas l'oublier, Ahmet İnsel.
Oui, la Turquie d'Erdogan, c'est en même temps ce que disait Delphine Mounuit, c'est une Turquie qui se veut néo-ottomane, mais de néo-ottomane avec un goût très kitsch. Donc on retrouve tout ce que dit Delphine, on le retrouve en concentré dans le palais que Tayyip Erdogan s'est fait construire, dans toutes ses dimensions, grandeur, laideur, décoration intérieure, etc. Et dans des cubes de Lego dont nous venons d'entendre, dans ces cubes de Lego, la responsabilité en grande partie est liée à un organisme public de construction qui fait des clones, effectivement, partout dans la Turquie. Et cette identité, la défense de l'identité culturelle pour Tayyip Erdogan, ce n'est pas une identité au niveau de la défense de la nature, au niveau
de
la culture locale, etc. C'est une identité islamo-nationaliste, un peu abstrait et un peu, je dirais, normative, et non pas une identité plurielle.
İşçil Erding, qu'est-ce qui va peser le plus, finalement, dans cette élection ? Est-ce que c'est la crise économique, malgré les mesures populistes du président Erdogan, ou la restriction des libertés, selon vous ?
Alors, ça peut être probablement pas les questions économiques qui seront au cœur, mais ce sera... Bon, après, je pense que les deux seront plutôt au cœur, sauf que les questions économiques ont l'air de jouer quand même un rôle pas aussi central, surtout dans la formulation des comportements électoraux. C'est quand même difficile, mais peut-être pour les jeunes, ça joue un rôle plus important, mais aussi pour les familles, bien sûr, les classes populaires, parce qu'en fait, ce sont pas seulement les classes moyennes qui ont été affectées, mais les classes populaires aussi, qui sont devenues beaucoup plus prolétarisées, beaucoup plus populaires. Et donc, c'est ça aussi, il y a également un appauvrissement également des classes populaires, donc ça aussi, ça reste joué. Mais il y a quand même également certains électeurs qui disent que l'économie, ce n'est pas le prix de pommes de terre, ce n'est pas le prix de l'oignon, c'est quand même la construction des avions, c'est la construction des bateaux de guerre, des voitures, et donc c'est plutôt une croissance économique, donc ça limite quand même ces effets.
Ouais. Et le président Erdogan a promis de tout reconstruire sur les lieux du séisme en un an, reste à savoir si c'est envisageable. Ouais. Pour vous, Ahmet İnsel, qu'est-ce qui va peser le plus dans cette élection ? Plutôt la crise économique, l'inflation ou la restriction des libertés ?
La société turque, dans sa grande majorité, puisque nous parlons d'une société de 85 millions d'habitants, donc on peut trouver tout dans cette masse de population, la société turque, dans sa très grande majorité, n'est pas aussi sensible aux questions de liberté économique, liberté fondamentale. Malheureusement, il y a une sensibilité d'une minorité importante, mais la majorité n'est pas aussi sensible. Mais il y a deux facteurs, trois facteurs qui jouent. La crise économique a érodé la popularité d'Erdogan. Si Erdogan aujourd'hui est passé de 50-52% des intentions de vote à 40% des intentions de vote, c'est surtout la perte de cette...
Au profit du candidat de l'opposition.
Au profit du candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, qui, dans les sondages d'opinion aujourd'hui, est en tête avec 3-4 points d'écart avec Tayyip Erdogan, si les sondages ne se trompent pas. L'économie joue quand même un rôle important pour marginalement peut-être, mais c'est cette marginalité qui fait la différence. Et puis deuxièmement, pour une partie des jeunes et une partie des classes urbaines occidentalisées, etc., la répression est vraiment très importante. Mais ces personnes-là étaient déjà contre Tayyip Erdogan. Donc du coup, en termes électoraux, ça ne change pas beaucoup. Et puis il y a aussi, au niveau du vote kurde, Tayyip Erdogan était le deuxième parti le plus important parmi les votes kurdes jusqu'à récemment. Mais aujourd'hui, le discours anti-kurde vraiment très dur.
Et la vague d'arrestation du
mois d'avril. Et les vagues d'arrestation récentes, mais il y a à peu près 6000 militants, avocats, journalistes, anciens députés, dirigeants du parti HDP qui sont en prison. 6000, ce n'est pas négligeable. Et donc, du coup, les Kurdes, il a perdu aussi beaucoup l'électorat kurde dans le sud-est. Pour compenser ça, il a introduit dans son alliance le parti, l'équivalent de Hezbollah kurde, qui est du radicalisme islamiste, peut-être extrémiste.
Delphine Minoui, ça sera ma dernière question. Votre roman, L'alphabet du silence, décrit avec beaucoup de minutie comment la peur peut d'abord anéantir lorsque l'héroïne voit son époux emprisonné alors que c'est un universitaire. Et comment cette peur peut devenir une force. Vous avez vécu 7 ans en Turquie, mais vous avez aussi passé 10 ans en Iran. Ce sont deux pays très différents, mais dans vos reportages, certains jeunes font référence à la résistance du mouvement iranien « Femmes, vie, liberté ». Est-ce qu'on peut voir des points communs ou pas du tout ?
Oui, c'est marquant de voir à quel point il y a une véritable dynamique au sein de la société civile turque. Et souvent, c'est vrai, ces derniers temps, quand je discute avec des femmes, avec des jeunes, il y a ce côté très universel où ils se sentent très solidaires du mouvement iranien Femmes, Vie, Liberté. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, ce slogan est issu d'un slogan kurde qui a été pour la première fois prononcé en Turquie. Moi, ce qui me frappe vraiment aujourd'hui, là, je reviens de plusieurs jours de reportages dans le sud-est, dans les zones sinistrées par le séisme, et j'ai passé aussi pas mal de temps à Diyarbakır, qui est vraiment la ville chef-lieu de la zone du Kurdistan. Il y a cette volonté de dire on est en train d'asphyxier. On est complètement étouffé, on a besoin de respirer, on a besoin de tourner une page, et ça leur donne une force. Il y a quelques jours, en effet, il y a eu, entre guillemets, une opération antiterroriste sans précédent dans des milieux culturels kurdes à Diyarbakır. C'était en fait une grande rafle contre des activistes, des journalistes, mais également des acteurs de théâtre. Et je suis allée rencontrer une de ces actrices qui avait été arrêtée, et elle me disait, mais vraiment... En fait, on a l'impression de vivre dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire que pourquoi avons-nous été arrêtés ? Le dossier est vide, c'est un dossier de 120 pages qui n'a aucune preuve, tout a été entièrement fabriqué. Elle, au lieu de baisser les bras, qu'est-ce qu'elle fait ? Tous les soirs, elle retourne, elle monte sur scène, et en ce moment, ils sont en train de jouer d'ailleurs une pièce de Dario Fo, qui est une espèce de métaphore de la crise économique. Ils la jouent en langue kurde, malgré la présence policière renforcée, et c'est leur façon de dire « nous continuerons jusqu'au bout ». Et il y a cet espoir incroyable qu'on ressent en ce moment, à quelques jours des élections, avec des gens aussi qui vous disent « on ne nous volera pas notre vote ».
Élection à suivre, bien sûr, sur RFI, sur les antennes de RFI et sur le site rfi.fr. Merci à vous tous, Ahmet İnsel, Delphine Minoui et İşil Erdinç. Dans quelques instants, ce sera le journal. On se quitte avec le groupe Altın Gün, qui signifie « âge d'or » en turc. 8 milliards de voisins sur RFI. Entreprendre en Afrique, si vous êtes un jeune entrepreneur, c'est le moment de nous appeler pour poser vos questions, parler de vos difficultés, dialoguer avec le coach Didier Akwété au 33 7 64 45 51 41. Et merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Divine Berthoud, Romain Dubrac. Émission à réécouter quand vous voulez en podcast.